Un moment, on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là, à force de jouer avec nos nerfs, fragiles les nerfs.
Et on en a beaucoup. Alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule. Ça va pas durer comme ça, moi je vous le dis. Si je vous dis maquis, qu'est-ce que vous me répondez?
Je dis stop.
Putain d'enculé de fasciste de merde.
Putain d'enculé de fasciste de merde.
Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister?
Et vous, là, affreux. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Je vous balaye.
C'est l'agenda des luttes sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission qui relaye les rendez-vous militants et culturels en Île-de-France. Une émission que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi, de midi à 12h30. Si vous voulez nous envoyer des informations ou simplement nous joindre, vous pouvez nous écrire au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris ou à l'adresse de l'émission agenda@rfpp.net. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 05 03 70 ou au 01 40 05 06 10 pour intervenir en direct. Et pour écouter toutes les émissions ou avoir accès aux informations pratiques des événements dont on parle, rendez-vous sur le site de l'émission agenda.rfpp.net.
Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'agenda de Fréquence Paris Pluriel et pour l'émission d'aujourd'hui, on écoutera un reportage réalisé ce matin par Joël sur le rassemblement organisé par le collectif Stop Galère devant le Conseil Régional d'Île-de-France pour protester contre l'augmentation du prix du pass Navigo. Mais d'abord, les infos et rendez-vous militants pour ce mercredi 7 décembre. Et aujourd'hui, l'intersyndicale CGT Sudrail et CFDT appellent à la grève unitaire à la SNCF. Après la table ronde du 6 juillet dernier qui a contraint la direction de la SNCF à un timide dégel salarial, une nouvelle table ronde salaire est convoquée ce 7 décembre. Dans un contexte d'inflation qui ne cesse de progresser, les organisations syndicales CGT, Sudrail et CFDT considèrent que le compte n'y est pas pour l'année 2022. Pour les trois organisations syndicales, le processus unitaire engagé depuis plusieurs mois doit être poursuivi afin de contraindre la direction à annoncer des augmentations générales des salaires et la revalorisation des primes de travail. Une demande de concertation unitaire a été déposée le 21 octobre dernier pour réitérer les revendications déjà exprimées par les organisations syndicales. Si la table ronde a été avancée de quelques jours en réponse à un courrier unitaire adressé à la direction, cette dernière continue à considérer que l'année 2022 a été soldée par la table ronde du 6 juillet. Mais les revendications sont toujours là et la détermination des cheminots à agir aussi. C'est pourquoi les organisations syndicales CGT, Sudrail et CFDT revendiquent une augmentation générale des salaires, la rétroactivité au 1er janvier 2022 des mesures annoncées lors de la table ronde du 6 juillet dernier, la réévaluation de l'indemnité de résidence, la révision à la hausse de l'enveloppe allouée aux EVS, l'octroi d'un véritable 13e mois pour l'ensemble des cheminots et la reconnaissance de l'expertise, de la qualification et de l'ancienneté des cheminots et cheminotes tout au long de leur carrière. Et pour faire entendre ces revendications, un préavis de grève unitaire a donc été déposé pour aujourd'hui.
Et le campement installé depuis vendredi dernier devant le Conseil d'État par Utopia 56 Paris IDF, les midis du MIE, Médecins sans frontières, Tara et Chimi pour soutenir les 350 jeunes isolés et à la rue tient toujours. Il y a toujours besoin de vêtements chauds, gants, bonnets, écharpes, manteaux, pulls, chaussettes et couvertures. Et si vous voulez les soutenir, rendez-vous devant le Conseil d'État au métro Palais Royal. Et à 12h30, les Gilets jaunes de Montreuil proposent leur cantine solidaire et c'est toujours de 12h30 à 14h30 à l'Aéry qui se trouve au 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, métro Croix de Chavaux. Et jusqu'à 16h, l'UNEFTAC de Nanterre ouvre sa permanence pour accompagner les jeunes refusés en licence et en master. Et si vous voulez vous y rendre, elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 16h sur le site de la fac de Nanterre.
À 14h, l'Agora des habitants de la Terre, l'Université du Bien Commun, le mouvement Éco-Avenir, la coordination Eau Île-de-France, le collectif L'Eau qui mord ou encore le collectif Bassine Non Merci lancent un appel à manifester devant l'Assemblée nationale contre la spoliation de l'eau et de la vie. L'eau, source de vie, est en train de se tarir sur notre planète. Sécheresse et inondations blessent la vie des humains et de la Terre. Les glaces de la planète sont en train de disparaître et le niveau de l'eau de la mer salée augmente dangereusement. Tout cela à cause de notre système de vie prédateur qui est à l'origine du changement climatique dévastateur. Les conditions de vie se dégrade, surtout pour les milliards de personnes qui souffrent déjà du non-accès à l'eau et à l'assainissement. Les activités économiques sont bouleversées, les famines se multiplient et s'aggravent, la désolation s'ensuit, les populations émigrent. Face à cette crise, les groupes dominants n'ont rien su faire de mieux que de mettre l'eau en bourse. Le 7 décembre 2020, la bourse de Chicago a ouvert les marchés spéculatifs aux transactions commerciales sur l'eau. En septembre 2021, la bourse de New York a décidé de confier 30% du monde naturel de la planète à la gestion privée de nouvelles entreprises cotées en bourse, une véritable spoliation de la vie par l'argent. L'eau est devenue un avoir financier comme le cuivre, le gaz, le pétrole. Sa valeur est un prix fixé par les marchés financiers. Les citoyens n'ont pas voté les bourses, ni les fonds d'investissement privés, ni les banques. En laissant faire les maîtres de l'argent, les majorités parlementaires ont contribué à faire de la finance le domaine d'activité économique le moins réglementé et le plus libre au monde. Elles sont devenues les complices de la grande prédation, spoliation de la vie. Or, les citoyens n'ont pas élu leurs représentants pour que ceux-ci soient au service des intérêts des dominants. Ils les ont choisis pour qu'ils défendent, sauvegardent et favorisent le bien-être, les droits universels et la dignité de tous les habitants de la Terre et qu'ils prennent soin de la vie de notre planète. Aussi pour exiger l'abolition des mesures prises par les bourses et la réaffirmation du principe que l'eau est avec l'air et l'énergie solaire le principal bien commun public mondial essentiel pour la vie et que son accès soit un droit universel. Pour exiger par conséquent de porter devant la Cour internationale de justice les États qui ne respectent pas la résolution de l'ONU du 28 juillet 2010 stipulant que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit universel. Pour exiger de mettre hors la loi les paradis fiscaux et les règles qui permettent l'évasion fiscale à vaste échelle. La collectivité mondiale a perdu en 2021 plus de 700 milliards de dollars suite à l'évasion fiscale. Pour exiger de redéfinir le cadre réglementaire, notamment financier, des biens communs publics mondiaux, essentiels pour la vie que sont l'eau, la santé, les semences, le logement, l'éducation et la connaissance. Et pour exiger de convoquer une conférence mondiale dès 2024 pour discuter et mettre en place un nouveau système financier mondial, l'Agora des habitants de la Terre, l'Université du bien commun, le mouvement Éco-Avenir, la coordination Eau-Île-de-France, le collectif L'eau qui mord ou encore le collectif Bassine Merci lance donc un appel à manifester devant l'Assemblée nationale contre la spoliation de l'eau et de la vie. Et le rendez-vous est donné à 14h devant l'Assemblée nationale.
Cette année, le mercredi aussi, le collectif Solidarité Migrants Wilson lance un appel à bénévoles en cuisine et pour la distribution de ce soir. Et si vous voulez y participer, le rendez-vous est donné jusqu'à 14h pour la cuisine au laboratoire écologique Zéro Déchet de Pendant qui se trouve au 20 rue Avenue Édouard Vaillant, métro 4 chemins. Et pour la distribution de ce soir, le rendez-vous est donné à 18h30 au théâtre de la Belle Étoile qui se trouve au 14 rue Saint-Just à Saint-Denis, RER, Stade de France.
À 18h, la Fédération internationale pour les droits humains organise une conférence autour de la mission d'observation de Vostok SOS en Ukraine sur la guerre d'Ukraine entre expériences d'occupation, violation des droits humains et crise humanitaire. Vostok SOS est une ONG ukrainienne engagée depuis 2014 dans l'assistance humanitaire aux populations civiles victimes de la guerre. En novembre-décembre 2022, Vostok SOS a réalisé, avec la participation de Aushtork EV, une mission dans les territoires récemment libérés des régions de Kherson, Donetsk et Kharkiv pour étudier les conséquences de la guerre et de l'occupation, ainsi qu'évaluer les besoins humanitaires à l'approche de l'hiver et face à la destruction systématique des infrastructures critiques par la Russie. Des participants et participantes de cette mission viendront partager leurs conclusions et leurs connaissances du terrain. Et à cette occasion, la FIDH présentera l'édition ukrainienne de son document « Violence sexuelle est basée sur le genre », un glossaire de A à Z qui remédie à la sous-documentation et au manque d'enquête et de poursuite des violences et met en perspective la situation en Ukraine où les preuves de ces violences commises par les troupes russes s'accumulent. Et si vous voulez en discuter avec Yulia Krasnilkova, directrice exécutive de Vostok SOS, Imke Hansen, officière de santé mentale et de soutien psychologique à Vostok SOS, Yulia Shukan, maîtresse de conférence à l'université de Nanterre et spécialiste de l'Ukraine, Tim Bose, coordinateur de projet à Aushtok EV, Alice Bordachare, responsable du bureau des droits des femmes à la FIDH. Rendez-vous donc de 18h à 20h au siège de la FIDH. C'est au 17 passage de la Main d'Or et vous pouvez aussi suivre la conférence sur Zoom via le lien que vous trouverez avec les codes sur le site de l'agenda. À 18h aussi, l'association Survival International organise une conférence sur le droit des peuples autochtones et l'environnement au Brésil. Alors que s'achève le mandat de Bolsonaro, quel bilan faire des 4 ans de politique génocidaire et écocidaire au Brésil, avec la complicité du pouvoir législatif et de ses différents soutiens, comme les chrétiens conservateurs, les militaires et les propriétaires terriens, surnommés les 3B pour Bible, Balle et Bœuf. Bolsonaro aura fait des peuples autochtones et de l'environnement deux fronts de sa guerre culturelle conservatrice et réactionnaire. Et si vous voulez revenir sur la résistance des peuples autochtones du Brésil et sur l'espoir prudent que suscite la récente élection de Lula avec Martine Lena, chargée de plaidoyer à Survival, et Élie Pucherol, chercheur en sciences politiques, rendez-vous à 18h dans l'amphithéâtre 250 au centre de colloque sur le campus Condorcet, c'est à Aubervilliers, métro Front Populaire. À 18h30, la Fondation Gabriel Péri organise un débat pour interroger la place du travail aujourd'hui. Et si vous voulez en discuter avec Thomas Coutreau, statisticien, économiste et militant associatif, co-animateur des ateliers Travail et Démocratie, eh bien rendez-vous donc à 18h30 au Malte Rouge, c'est au 40 rue de Malte, métro Oberkampf. À 18h30 aussi, La Flèche d'Or et l'association Une idée dans la tête inaugurent leur cycle Parole de concernés avec une discussion-rencontre entre militantes afghanes et iraniennes suivie d'une performance artistique. L'objectif de cette rencontre est de faire entendre les voix des femmes en lutte, de mieux connaître les situations des femmes et des peuples en général, en Iran, en Afghanistan mais aussi en France, de visibiliser les moyens d'action individuels et collectifs pour soutenir les luttes de peuples opprimés ici et là-bas et partager un moment ensemble pour se soutenir, s'encourager et donner de la force. Et si vous voulez y participer, c'est à partir de 18h30 à La Flèche d'Or au 102 bis rue de Bagnolet, métro Porte de Bagnolet.
Et à 19h, l'Assemblée féministe de Montreuil organise une assemblée générale pour faire le bilan de la marche du 25 novembre dernier contre les violences faites aux femmes et pour préparer la grève féministe du 8 mars prochain. Et si vous voulez participer à cette assemblée générale de l'Assemblée féministe de Montreuil, rendez-vous à 19h à la Bourse du Travail de Montreuil qui se trouve au métro Croix-de-Chavaux.
À 19h aussi, le lieu-dit organise une rencontre avec Christophe Ventura sur le Brésil, les défis du nouveau gouvernement Lula. Il y a quelques années, le Brésil de Lula pouvait faire figure de modèle de développement démocratique et économique en Amérique latine et dans le monde. Aujourd'hui, la situation apparaît tout autre. Le pays est affaibli et divisé et l'image de la première puissance régionale dans le monde s'est inversée. Alors que les forces du bolsonarisme restent nombreuses, présentes et actives, les défis que doit relever le troisième gouvernement de Lula sont majeurs, tant en matière de politique intérieure que du point de vue de la place du Brésil sur la scène régionale et mondiale. Et si vous voulez en discuter avec Christophe Ventura de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, rendez-vous à 19h au lieu-dit, c'est au 6 rue Sorbier, métro Ménilmontant.
Et à 19h également, le Dissident Club organise une rencontre sur les médias en France en 2022. Guerre en Ukraine, concentration capitalistique, relations avec les actionnaires, avec les annonceurs, avec les politiques, canaux d'information, conditions de travail. Réseaux sociaux, autant de sujets qui sont abordés avec Pierre Rimbert, journaliste au Monde diplomatique. Et si vous voulez en discuter avec lui, rendez-vous à 19h au Dissident Club. C'est au 58 rue Richer, métro Le Pelletier.
À 20h, dans le cadre du Forum des droits de l'homme organisé par Amnesty International, l'ACAT, le CCFD, l'ACIMAD, la FIDH, Habitat et Humanisme, la LDH, RAP2S et l'Union des étudiants exilés, il y aura une conférence débat sur l'ubérisation du travail, quel droit pour les travailleurs. Le but de cette conférence est tout d'abord de distinguer et d'évaluer les effets de l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur les emplois et les conditions de travail pour les chauffeurs Uber, livreurs dans le cadre du e-commerce. Il est aussi d'exposer les luttes, les évolutions et les avancées dans le statut et les conditions de travail de ces travailleurs. Et si vous voulez en discuter avec Odile Chani, économiste à l'Institut de Recherche Économique et Sociale, co-autrice d'un ouvrage intitulé « Désubériser, reprendre le contrôle » en collaboration avec Franck Bonneau, Mathias Dufour et Florent Forestier, et Antonio Casilli, professeur à l'école Télécom Paris, spécialiste des effets des nouvelles technologies sur le travail. Rendez-vous à 20h au Centre social et culturel des Blagies. C'est aux 2 rues du Docteur Roux, à Sceaux. Enfin, à partir de 9h demain matin, la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord organise un colloque intitulé « Soigner en temps de crise ». Les crises que nous connaissons ont révélé des logiques de production et de reproduction des inégalités de santé dans leur dimension tant sociale que spatiale. Qu'en est-il de ces inégalités ? Qu'en est-il des peurs, des émotions, de la souffrance psychique ? Quels sont les effets du recours accéléré aux dispositifs numériques de santé ? Comment les sciences sociales travaillent-elles les questions de santé dans l'interdisciplinarité ? Comment analysent-elles la crise sanitaire de la Covid-19 qui se conjugue à d'autres crises environnementales ou encore politiques ? Toutes ces questions seront abordées lors de ce colloque à travers 4 tables rondes qui seront consacrées à la santé et aux inégalités, aux politisations du soin, à la peur de la contagion et à la contagion de la peur, et aux enjeux sociaux, éthiques et juridiques de la santé numérique. Et si vous voulez participer à ce colloque, rendez-vous à partir de 9h demain matin dans l'auditorium de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord. C'est au 20 avenue Georges Sand à la plaine Saint-Denis, métro Front Populaire. Et vous retrouverez sur le site de l'agenda le lien pour vous inscrire et le programme complet du colloque. Et on écoute le reportage réalisé ce matin par Joël sur le rassemblement organisé par le collectif Stop Galère devant le Conseil régional d'Île-de-France pour protester contre l'augmentation du prix du pass Navigo.
Romain Pitelet de la CGT Cheminot de Paris-Rive-Gauche, donc du sud de l'Île-de-France, où circule notamment la ligne C du RER et les lignes NEU. Pour nous, c'est une étape supplémentaire ce rassemblement parce qu'on arrive à faire à grande échelle devant le Conseil régional d'Île-de-France un rassemblement assez important d'usagers, d'élus politiques, de travailleurs de la RATP et de la SNCF. Ce rassemblement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est issu de multiples mobilisations qui ont eu lieu localement dans les villes, sur les lignes, pour la défense de gare. Donc c'est une agrégation qu'on a aujourd'hui, une première étape du tous ensemble, hein, comme on dit. Mais cette situation, elle perdure malheureusement depuis plusieurs années, hein, quand les premiers objectifs ont été donnés d'ouverture à la concurrence. Donc, dans un premier temps, de déstructuration des entreprises SNCF et RATP et d'adapter leurs organisations pour pouvoir permettre la mise en concurrence de chaque ligne. Donc déjà, il y a eu un premier travail de fait à l'intérieur des entreprises de bien séparer par ligne l'ensemble des travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui travaillent pour la ligne C, ceux qui travaillent pour la ligne N, la ligne J, la ligne etc. Et il a fallu tout séparer, séparer les établissements, casser les mutualisations, casser la multi-activité. C'est notre créneau à nous. On parle souvent des conducteurs, mais pas seulement. Un agent du matériel qui répare les trains, il peut un jour réparer un TER et puis le lendemain réparer un transilien et pourquoi pas un TGV après. Bon voilà, tout ça ils le cassent, ils mettent des barrières, ils mettent des barbelés pour étanchéifier tout ça et surtout pour pouvoir après ouvrir des appels d'offres par ligne avec la complète, l'atelier du matériel, le matériel roulant, les conducteurs de train, les agents commerciaux, etc. Et tout ça est bien dédicacé. Donc ça, nous, ce combat-là, on le vit déjà depuis plusieurs années. On s'y oppose. Il y a des luttes importantes, en plus des suppressions d'emplois. Et puis, il y a l'étape supplémentaire qui a été franchie sur les annonces d'ouverture à la concurrence. Et puis, la réduction des effectifs. Mais ce n'est pas qu'une réduction des effectifs, c'est une précarisation. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont en train d'habituer le fait qu'on supprime des postes, on ne remplace pas les départs en retraite, mais il y a quand même des besoins de production, il y a des besoins de conducteurs, il y a des besoins d'agents du matériel, il y a du besoin d'agents dans les gares. Ils sont contraints malgré tout par ça, et donc ils embauchent des intérimaires, et donc ils paupérisent en plus des jeunes salariés, alors pas forcément des jeunes d'ailleurs. Et donc c'est toute cette chaîne-là, libérale, là, qui se diffuse en permanence. Donc on leur met des coups de butoir. C'est ces éléments-là, une perte du métier, du sens du travail. C'est assez grave. Et donc nous, on se bat pour réexpliquer tout ça, redonner du sens à la question du service public. Et puis que, évidemment, les combats sont utiles et sont nombreux. L'exemple que je citais tout à l'heure sur... Pendant l'été, 19 trains de supprimés par jour sur la ligne C. Une mobilisation en 3 semaines, les élus qui montent au créneau, les cheminots qui appellent à un rassemblement et sans grève, bien évidemment. Une mobilisation des associations d'usagers. Et...
Pourquoi sans grève, évidemment ? Parce que la grève, quand même, c'est le rapport de force. Hein.
Oui, mais c'est le rapport de force dans l'entreprise. Quand on fait une mobilisation avec les usagers, nous, on a trouvé que le moment... L'un n'empêche pas l'autre, bien évidemment. Alors, je pense qu'on est persuadé que la grève est l'outil ultime du rapport de force. Il y a des moments où il faut savoir aussi créer les conditions du rassemblement et puis donner des signes. Voilà, c'est pas que symbolique. Hein. Des cheminots qui se rassemblent sur une journée d'action, parce que ça reste une journée d'action, pour mettre la pression sur la direction de la l'INSEE et qui contraint la l'INSEE à remettre 6 trains tout d'un coup, et puis là, il va y en avoir sûrement d'autres. C'est pas la victoire que de la CGT, c'est la victoire des usagers, des personnels, des élus qui se sont mobilisés. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à poursuivre le plus possible. C'est-à-dire qu'on cherche des solutions, je vais pas dire des pansements sur les jambes de bois, parce que tous les combats qui sont menés, y compris par les élus d'Île-de-France Mobilité ou du Conseil régional, des forces progressistes, comme on dit, ils sont pas anodins, bien au contraire. Hein. Mais il faut poser ces sujets-là, il faut sortir tous ces éléments-là du marché, et ça règle tout. Ça règle la concurrence. Du coup, il n'y a pas besoin de monopole, parce que de toute façon, il n'y a pas de marché. Donc voilà. Mais c'est tous ces sujets-là, et tout en découle, et y compris le financement. Et y compris, du coup, derrière, on peut aborder la question, par exemple, des transports gratuits.
Et ça, c'est parce que je sais que le fiston écoute, on écoute le grand classique d'I Am Petit Frère. Bon, on a un problème technique, alors on va passer au rendez-vous culturel en ce moment à la Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord. Vous pouvez découvrir l'expo In the Banlieue, Auckland, Saint-Denis, écrire la ville collectivement, présentée simultanément à Saint-Denis, à San Francisco et à Auckland. Quelle que soit la manière de les nommer, banlieue, périphérie, suburbs, frange urbaine, cette exposition met en lumière le retournement symbolique du centre à la périphérie, mouvement artistique, lutte sociale, innovation urbaine. Les banlieues d'Auckland en Californie et de Saint-Denis imposent aujourd'hui leur influence et inventent des solutions aux enjeux de pauvreté et de développement urbain accéléré auquel les métropoles font face, rassemblant un corpus hybride d'images, d'archives, maquettes, tableaux, installations artistiques, objets, vidéos. Cette exposition explore les pratiques culturelles et habitantes en urbanisme, des lieux, des personnes, des histoires les constituent, dessinant loin des clichés, des portraits de banlieues composites. Et si vous voulez découvrir cette expo, elle est visible jusqu'au 15 mars à la Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord. C'est du lundi au vendredi de 12h30 à 14h et c'est au 20 avenue Georges Sand à la Plaine Saint-Denis, métro Fonds Populaire. On écoute Ayam.
Petit frère n'a qu'un souhait devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on gicle Blanche-Neige et tape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées, plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ces cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de sept lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. De fringues et de thunes, de réputation de dur, pour tout ça il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de sept lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Petit frère.
changé.
Demain, tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des mots de la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste surexposé à la pub aux actes violents.
Et on reprend avec les rendez-vous culturels. À 18h30, Décroissance Île-de-France propose une présentation débat autour de Timothée Parik et de son livre Ralentir ou Périr, paru aux éditions Le Seuil. Entre produire plus et polluer moins, il va falloir choisir. Choix facile, car une économie peut tout à fait prospérer sans croissance à condition de repenser complètement son organisation. C'est le projet de ce livre, explorer le chemin de transition vers une économie de la post-croissance. Et si vous voulez en discuter avec Timothée Parik, rendez-vous à 18h30 à la Maison de la Vie associative et citoyenne du 12e. C'est au 181 avenue Doménil, métro Doménil.
Et à 18h30, les assos comme vous et moi et Alternative proposent l'exposition intitulée Tan Che Manami. En 2019, des jeunes franciliens rencontrent des jeunes béninois pour penser et préparer le retour d'objets pris lors de la colonisation de Dahomey par la France. Cette exposition est un post-production de leur découverte et échange interculturel sur les enjeux de la restitution du patrimoine béninois. Et si vous voulez découvrir cette expo, rendez-vous à 18h30 dans les locaux de l'asso. Comme vous et moi, c'est au 5 rue de la Révolution à Montreuil.
À 18h30, toujours, le Centre culturel algérien propose dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance une rencontre regard croisé sur la révolution armée algérienne à travers trois ouvrages réédités par les éditions Le Temps des Cerises. Et si vous voulez en discuter avec l'éditeur et militant anticolonialiste Niels Andersson, l'historien Alain Ruscio, Toufik Guerouch, fils de Jacqueline Guerouch, et Frédéric Rauch, directeur des éditions Le Temps des Cerises, rendez-vous à 18h30 au Centre culturel algérien. C'est au 171 rue de la Croix-Nivert, métro Boussicaut. À 18h30 encore, la librairie La Flibuste organise une discussion avec Nicolas Da Silva et Bernard Friot autour du livre La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé paru aux éditions La Fabrique. Et si vous voulez en discuter avec eux, rendez-vous à 18h30 à la librairie La Flibuste, c'est au 3 rue Jean-Jacques Rousseau à Fontenay-sous-Bois. De 18h30 à 20h30, l'atelier historicisé les propagandes organisé par Sciences Po Paris se poursuit avec une séance autour de Martino Opizzi de l'école française de Rome qui présentera son livre Les Juifs italiens de Tunisie pendant le fascisme, une communauté à l'épreuve entre 1921 et 1943. Et si vous voulez discuter avec lui de la question de la propagande du régime fasciste et de son évolution vis-à-vis des émigrés italiens en Tunisie durant toute cette période, rendez-vous de 18h30 à 20h30. Ça se passe dans la salle 50 du centre des colloques sur le campus Condorcet à Aubervilliers, métro Front Populaire. À 19h, La Brèche organise une rencontre avec Aurore Cochelin autour de son livre La norme gynécologique, ce que la médecine fait au corps des femmes, publié aux éditions Amsterdam. Et si vous voulez en discuter avec la sociologue, rendez-vous à 19h à la librairie La Brèche, c'est au 27 rue Taine, métro Doménil. À 19h30, le collectif Case Rebelle propose une projection de discussion autour de son film Dir Alamine en présence de Fatou Dieng. Dir Alamine, c'est un film documentaire long métrage réalisé par le collectif Case Rebelle en association avec le collectif Vivolé, un collectif de familles de victimes de crimes policiers. Le tournage a débuté en 2016, quelques semaines avant la 9e commémoration de la mort de Lamine Dieng, étouffée par des policiers le 17 juin 2007 à Paris. Pourtant, Dir Alamine n'est pas un film sur les violences policières. C'est un film qui parle de Lamine, qui parle de 10 ans d'absence, 10 années de Vivolé. Comment vit-on avec l'injustice, avec la double blessure du crime et de l'absence de procès? Comment continue-t-on d'exister, de lutter, de résister? Que faire face à l'impossibilité d'obtenir justice? Autour d'interviews, d'images d'archives, des membres de la famille et des soutiens racontent. Souvenirs, médiation politique, mise en perspective, analyse historique se succèdent. Mais il s'agit aussi de s'adresser à Lamine, c'est le cœur du film, pour conjurer le sort de cette mort dans une solitude absolue. Parce que nous portons, nous vivons, le devoir d'obtenir réparation, de créer du sens et de la force politique de cette mort inacceptable. Et si vous voulez voir ou revoir ce film et en discuter avec Fatou Dieng, rendez-vous à 19h30 au Centre Paris Anime Place des Fêtes. C'est aux 2 rue des Lilas, métro Place des Fêtes. À 20h, Mediapart et le cinéma Saint-André-des-Arts proposent la projection en avant-première du film La Très Grande Évasion, suivie d'une discussion avec Yannick Kerguat, le réalisateur, et Edwy Plenel, journaliste, président et cofondateur de Mediapart. Et si vous voulez découvrir ce film en avant-première et en discuter avec eux, rendez-vous à 20h au cinéma Saint-André-des-Arts, c'est au 30 de la rue Saint-André-des-Arts, métro Saint-Michel. À 20h30, le cinéma Le Méliès propose une projection débat autour du film Il nous reste la colère en présence des réalisatrices Jamila Jendari, Nicolas Bernaert et le protagoniste du film Philippe Poutou. En 2011, les ouvriers de Ford à Blanquefort sauvent leur usine et ses 1000 emplois. La joie de la victoire laisse rapidement place à de nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci finissent par devenir une réalité jusqu'à l'arrêt définitif des chaînes de montage en 2020. Il nous reste la colère retrace leur dernière année de combat, dressant le portrait d'un groupe emmené par Philippe Poutou. Et si vous voulez découvrir ce film documentaire en avant-première et en discuter avec les réalisatrices et Philippe Poutou, rendez-vous à 20h30 au cinéma Le Méliès. C'est au 12 place Jean Jaurès à Montreuil, métro mairie de Montreuil. Et voilà, l'agenda c'est fini. Merci à Joël pour la technique. Pour retrouver toutes les infos, adresses et liens internet ou pour écouter en podcast l'agenda du jour ou le télécharger, rendez-vous sur le site de l'agenda sur rfpp.net. Tout de suite, c'est l'actualité des luttes et on se retrouve demain même heure pour un nouvel agenda. D'ici là, bonne écoute sur FPP.